Bonjour, aujourd'hui 28 juin 1762, la prise du pouvoir par Catherine II.
Être tout-puissant qui fait les grandes destinées, conserve à l'univers cette grande souveraine, accorde-lui une splendeur et une félicité durable, ainsi soit-il. Diderot.
D'histoire. Parce qu'en 34 ans de règne, elle a fait de la Russie une des plus grandes puissances de l'époque. On l'a surnommée la Grande Catherine. Et Voltaire, qui dès qu'il s'agissait d'un monarque, était pourtant avare en compliments, l'avait même surnommée la Sémiramis du Nord, donnant à Catherine II le nom de cette reine de légende qui avait construit les jardins suspendus de Babylone. C'est pourtant par un coup d'État sordide qu'avait commencé un des règnes les plus extraordinaires de l'histoire. Le 27 juin 1762, acclamée par la garde impériale, Catherine II montait sur le trône de Russie après en avoir chassé son mari, le tsar Pierre III. Une semaine plus tard, la nouvelle impératrice apprenait sans émotion la mort de son mari, probablement assassiné par sa femme et par un de ses nombreux amants.
Une dépêche pour la souveraine.
Notre petite mère miséricordieuse impératrice, comment expliquer, comment décrire ce qui est arrivé? Le tsar Pierre III n'est plus de ce monde. Pardonne-nous ou ordonne de mettre fin à nos vies. Nous t'avons offensé et nous nous sommes damnés pour l'éternité. Ton méprisable esclave, Alexei Orlov. Messieurs les sénateurs, soudainement pris d'une violente crise de colique hémorroïdale, notre époux, le tsar Pierre, a rendu l'âme cette nuit.
Hélène Carrière d'Encausse, bonjour.
Bonjour.
Alors, la biographie de Catherine II que vous venez d'écrire commence justement par ce coup d'État qui a permis à Catherine II de monter sur le trône de Russie en renversant et en faisant sans doute assassiner son mari, Pierre III. Alors, c'était le début d'un règne qui a duré 34 ans dans un pays sur lequel, pourtant, Catherine II n'avait aucune espèce de légitimité. Elle n'était pas la fille du tsar, mais elle était sa femme. Et pire encore, elle était même pas russe, elle était allemande d'origine.
Oui, c'était une petite princesse allemande que la tante de Pierre III, qui règne quand elle le détrône, était allée chercher dans une petite principauté allemande, protégée d'ailleurs, elle a été protégée par Frédéric II de Prusse, qui a pensé qu'en faisant épouser à l'héritier une petite princesse allemande peu connue, il aurait la main haute sur le couple princier. Et en fait, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Cette petite princesse allemande, qui est arrivée en Russie à 16 ans sans connaître le russe, sans avoir aucune espèce d'idée du pays où elle arrivait, a très vite appris le russe, elle était convertie à l'orthodoxie. Cela dit, ça ne lui donne aucunement le droit de régner, puisqu'elle n'a aucune attache avec la famille impériale de Russie, avec la descendance des Romanov.
Mais il y avait une véritable métamorphose, parce que cette princesse, elle n'a pas régné tout de suite, puisque c'était à l'époque l'impératrice Elisabeth qui régnait sur la Russie. Pendant qu'elle est à la cour, elle apprend, donc vous le dites, le russe, elle devient orthodoxe, elle devient même plus russe, au fond, que son mari, le futur tsar, qui lui va régner à peine 6 mois, Pierre III, qui lui ne s'intéressait qu'aux jouets, qu'aux petits soldats, aux poupées, dites-vous, plus qu'à sa femme. Le mariage n'a pas été un mariage heureux du tout.
Le mariage a été un mariage absolument déplorable, puisque cette petite fille, c'était une enfant, et qui avait à peine 16 ans, et elle va rester grande-duchesse héritière pendant 18 ans, se trouve complètement délaissée par le mari, qui était tout à fait immature. Non seulement il jouait aux petits soldats, mais il jouait aux poupées. Il ne s'intéressait pas, il ne fréquentait pas sa femme, littéralement, elle le raconte dans ses souvenirs. Et la conséquence de cela, d'ailleurs, ça aggrave encore, l'illégitimité de cette princesse au moment du coup d'État. La conséquence de ça, c'est que l'impératrice Elisabeth, évidemment, est extrêmement irritée, étant donné que si elle a marié son neveu, c'est pour qu'il y ait un héritier. Or, il n'y a pas d'héritier pendant 8 ans. Manifestement, l'impératrice Elisabeth a poussé dans le lit de la jeune princesse héritière, un tiers, qu'on appelait le beau Serge, qui était Serge Saltykov, et qui est, selon toute probabilité, le père du futur Pierre III. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, autant cette petite princesse s'identifie à la Russie, s'identifie à l'orthodoxie, se sent russe plus que quiconque. Autant son mari, qui, il faut tout de même le dire, n'avait pas été élevé en Russie. Elisabeth l'a fait venir pour qu'il soit son héritier, mais il avait été élevé à la cour de Holstein, il avait été élevé pour être souverain de Holstein, il se sentait allemand, il n'aimait parler que l'allemand, il ne s'intéressait qu'à l'Allemagne, il avait un modèle, c'était Frédéric II de Prusse. C'est-à-dire qu'il y a un décalage complet entre celui qui est légitimement le souverain et celle qui n'est rien du tout. L'un est un Allemand qui déteste la Russie et l'autre, la Russie, l'orthodoxie, c'est la religion des Russes. Il méprise tout ça. Et l'autre est plus russe que russe.
L'autre, c'est Catherine II, donc, l'autre... qui est plus populaire finalement que son mari, si bien que le coup d'État, en réalité, est assez populaire. Le peuple est plutôt favorable à cette petite princesse qui aime son pays, qui aime la Russie, qui devient orthodoxe. Mais alors, cela dit, quand même, quand elle renverse son mari, quand elle le fait assassiner par Orlov, très vraisemblablement, elle est quand même pas... Comment se fait-il qu'elle soit impératrice? Elle a un fils qui s'appelle Paul, justement.
Alors, d'abord, un point de détail, elle n'a pas fait assassiner son mari. Je veux dire que ça, c'est la légende, on a toujours dit, elle l'a fait tuer. Il a été tué, c'est tout à fait exact. Donc, si vous voulez, il est détrôné. D'ailleurs, il ne s'est pas fait prier pour quitter le trône, il a pleurniché, il a demandé qu'on l'envoie avec sa maîtresse, car il avait une maîtresse quelque part à l'étranger. En fait, il a été dirigé, ça, c'est la vieille tradition russe, vers un couvent. Car on enfermait les impératrices qu'on détrônait dans un couvent, pourquoi ne pas enfermer un empereur? Mais il a été tué manifestement dans une querelle d'ivrogne. Tous ses frères Orlov buvaient comme des trous et Alexis Orlov, qui était chargé de l'escorter au couvent, s'est battu avec lui. Alors on a donné des tas d'explications. Il est très douteux que Catherine ait fait, et il n'y a aucun document qui le prouve, ait voulu le faire assassiner.
En tout cas, la voici devenue donc impératrice dans un pays qui ne pèse pas encore très lourd dans l'Europe de l'époque, un empire divisé et agité par la révolte de tous les peuples qui le composent.
Ces manifestations de mécontentement signalées chez les Cosaques ne doivent pas inquiéter votre majesté. En fait, de quoi se plaignent-ils? Ils refusent de faire couper leur barbe. Y a-t-il là de quoi provoquer la moindre révolte?
Et l'âme?
Un certain mécontentement s'est manifesté dernièrement chez les Tartares, Majesté.
Et les Kirghizes? Et les Kalmouks?
La pacification de ces tribus primitives se fait lentement. On prétend qu'un certain nombre de Moujiks et de Serfs se seraient joints aux traîtres. Mais je l'assure à votre Majesté, la situation est...
Je sais bien, non. Je veux que ces foyers de révolte soient écrasés! Avant de devenir un braquet! Qui s'étendra à tout
l'Empire.
Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Catherine II avec Hélène Carrère-Dancos.
Et l'on vient d'entendre Neige, le temps est venu, un chant cosaque par le cœur d'hommes de Moscou, dans ce pays donc dont elle devient à Saint-Pétersbourg l'impératrice, Hélène Carrère-Dancos en 1762, Catherine II, dans un pays qui était immense, mais finalement qui effectivement ne pesait pas très lourd.
Il ne pesait pas lourd du tout. D'abord, c'était un pays qui était très dispersé, l'espace était immense, il y avait des populations très hétérogènes, il ne faut pas l'oublier, vivant tous sur le même sol, qui étaient souvent très mécontentes, d'abord parce qu'il y avait des vieux croyants à qui on interdisait de pratiquer, pratiquer leur foi et qui étaient persécutés. Il y avait beaucoup, les Tatars, les Bashkirs étaient des musulmans et l'islam avait été balayé littéralement. Donc il y a un mécontentement extraordinaire. Le pays ne pèse guère parce que tout simplement Pierre le Grand avait conquis les rives de la Baltique. Il avait même un moment, au début de son règne, en 1706, était jusqu'à la mer Noire. Il avait conquis la forteresse d'Azov. Ça avait l'air d'ouvrir à la Russie l'espace de toutes les mers. Mais ensuite, il a guerroyé pendant des années contre la Suède pour s'installer sur la Baltique. Il n'empêche que les conquêtes de Pierre le Grand, qui se cantonneront à la Baltique pour finir, puisqu'il perdra les rives de la mer Noire, n'ont pas installé la Russie dans la vie internationale. La Russie reste un pays marginal, lointain.
Moins peuplé que la France, alors qu'il est beaucoup plus grand. Hein. La Sibérie est déjà
immense,
conquise.
C'est déjà un espace immense. La Sibérie a été conquise. Elle n'a pas été conquise par les armées, d'ailleurs. Ce sont les marchands de fourrures qui sont allés en Sibérie. Et puis, on a installé, des colons se sont installés ensuite, et l'Empire, au fond, en a pris le contrôle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est justement que ces terres qui s'étendent essentiellement par la marche de colons, de marchands, forcément, elles ne sont pas contrôlées par le centre. Et c'est là, c'est une des grandes difficultés auquel va se heurter Catherine II.
Catherine II qui va faire preuve d'une très grande fermeté, c'est vraiment un despote quand même, Hélène Gallardan-Cos, hein, la façon dont elle réprime toutes les révoltes qui se produisent dans son pays.
Alors, oui, je voudrais dire qu'il y a, il y a eu des révoltes, et elle est bien obligée de les réprimer, comme l'ont fait ses prédécesseurs. Pierre le Grand a été de la même façon confronté exactement au même, aux révoltes des peuples de la périphérie, aux révoltes de paysans. C'est un phénomène récurrent dans l'histoire russe. Mais en dehors des révoltes, l'une des idées fixes de Catherine II est au contraire de se concilier la population. Et notamment, elle l'a fait, je voudrais le dire parce que c'est très important, elle a compris, elle est le premier souverain russe à l'avoir compris, qu'on ne peut pas dominer des peuples d'islam et leur enlever l'islam. Et c'est elle qui a tendu la main à l'islam, qui a fait reconstruire les mosquées, qui a interdit de convertir de force les musulmans, et elle a réussi à pacifier très largement la périphérie musulmane.
Donc despote éclairé aussi, hein, et c'est sans doute la raison pour laquelle elle était appréciée par les philosophes du XVIIIe siècle, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, Catherine II, très soucieuse de son image, hein, devient vite l'égérie des philosophes français des Lumières, le premier d'entre eux, Voltaire. « C'est du Nord que nous vient aujourd'hui la lumière », lui écrit-il. « Le Nord est le berceau des nations destinées à détruire le fanatisme et la superstition. Vous êtes devenue réellement la bienfaitrice de l'Europe. Vive l'adorable Catherine, je me mets à vos pieds avec adoration et idolâtrie. » Au point que Voltaire ne trouve rien à redire quand elle fait massacrer par exemple les Turcs, des barbares, comme il dit. « Je voudrais les voir tous exterminés », dit-il, « ou du moins chassés si loin qu'ils ne revinssent jamais ». Alors Diderot, bien sûr, lui, il fera carrément le voyage, et réputé pourtant pour son athéisme, il se fendra même d'une prière pour elle. « Être tout-puissant qui fait les grandes destinées, conserve à l'univers cette grande souveraine, accorde-lui une splendeur et une félicité durable, ainsi soit-il. » Alors Grimm, hein, l'auteur des contes, est en adoration également. « Il ne se fait plus rien de bien, de grand, de sensé, dit-il, dans ce monde, sans Catherine II. » Et Buffon, le savant, sait lui aussi remercier l'impératrice russe pour ses cadeaux. « Cette tête céleste, dit-il, est digne de régir le monde entier. » Alors malgré tout cela, hein, tous ces éloges, Catherine II continue quand même de traîner une mauvaise réputation. Pour le duc de Choiseul, par exemple, ministre des Affaires étrangères de Louis XV, Catherine II n'est qu'une, je cite, « petite princesse allemande montée de crime en crime jusqu'au trône ». La version officielle de la mort de Pierre III, donc des suites soi-disant d'une colique hémorroïdale, ne convainc en effet pas grand monde. Il fiche carrément la trouille à D'Alembert. Le philosophe, qui n'a aucune envie de se rendre en Russie, bien qu'il soit invité, « Je suis trop sujet aux hémorroïdes, dit-il, et elles sont trop sérieuses dans ce pays. » Et lorsque la peintre Elisabeth Vigée-Lebrun exprime le souhait de faire le portrait de Catherine II, un ami lui conseille ceci. « Prenez pour toile la carte de la Russie, les ténèbres de l'ignorance pour fond, les dépouilles de la Pologne pour draperie, le sang humain pour coloris et pour ombre, les 6 mois de règne de son mari. » En Angleterre, l'écrivain Horace Walpole ne voit en Catherine II qu'une régicide qui cherche à faire oublier son crime. « Et comment répare-t-on un meurtre, dit-il? Est-ce en retenant des poètes à ses gages? Est-ce en payant des philosophes ridicules à milieu de son pays ?»
Alors on le voit, Catherine II, Hélène Gallardan-Cos, n'avait pas que des admirateurs. Cela dit, Walpole, ça compte quand même moins que Diderot, Voltaire. Comment se fait-il qu'ils aient pu être fascinés comme ça? Alors, par quelqu'un qui n'était quand même pas un souverain libéral comme ils l'étaient,
bon, il y avait plusieurs raison. Il y a une raison, c'est que Catherine II a été tout de même très généreuse avec eux. Pas avec Voltaire, parce que Voltaire n'avait pas besoin de ça, il avait une fortune, il était au-dessus de ça. Mais il est clair que Catherine II a stipendié certains d'entre eux, notamment Grimm. Grimm était son agent d'influence, son acheteur d'œuvres d'art, celui qui organisait les séjours d'étudiants russes pour son compte en France et qui lui envoyait des techniciens, des experts en Russie. Il a vécu véritablement à ses crochets. D'ailleurs, c'est l'époque où les philosophes vivaient au crochet des empereurs. Il ne faut tout de même pas oublier. D'Alembert a vécu à la cour de Frédéric II de Prusse, donc c'était une habitude. Diderot a bénéficié de ses largesses plus que quiconque. Il est venu en Russie, certes, mais quand il a manqué d'argent et qu'il voulait vendre sa bibliothèque, Catherine II l'a acheté, la bibliothèque, elle l'a laissée pour l'éternité à la disposition de Diderot, et elle lui a même payé une pension de bibliothécaire. Elle avait envoyé à Voltaire des secours pour la veuve de Calas. Donc,
Pas mal d'opportunisme, quoi, comme on retrouve aujourd'hui de temps en temps.
Ben, je dirais qu'elle était, je crois qu'il faut être juste, elle était fascinée par la philosophie française. Elle était fascinée par le siècle des Lumières. N'oubliez pas, une fois encore, son parcours intellectuel. Cette petite princesse de 16 ans, solitaire en Russie, lit. Elle lit comme personne n'a jamais lu. Elle connaît par cœur pratiquement toute la littérature européenne. Les philosophes, elle s'en inspire. Elle voudrait faire ce qu'ils recommandent. Mais elle s'est trouvée dans une situation où c'était impossible. Enfin, la Russie du XVIIIe siècle est tout de même à 100 lieues de ce que prônent les philosophes. Néanmoins, elle s'en est inspirée.
Oui, elle a tenté de le faire. Vous dites qu'elle a voulu élaborer une espèce de constitution, ce qu'on appelle le nakaz, pour son pays. Elle a convoqué des états généraux, quasiment.
Elle a convoqué des états généraux, et il faut replacer ça une fois encore dans le siècle. Nous sommes en 1767, 20 ans avant la réunion des états généraux français. Qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande à tous les représentants de la société, des délégations élues, de venir avec des cahiers de doléances. Quand on fait une chose comme ça, c'est extraordinairement dangereux, si vous voulez. Il ne s'agissait pas de leur demander leurs souhaits, il s'agissait de leur demander ce dont ils étaient mécontents. En fait, ce sont des bombes qu'elle a fait déposer. Ces bombes, elles vont, je dirais, brûler, la mèche va brûler en Russie pendant un siècle, et un siècle plus tard, ce sera l'abolition du servage.
Ah oui, oui.
Oui, mais, bah oui, mais en 10, une fois encore, il faut tout de même regarder le temps. En 1762, on ne peut pas abolir le servage. La Russie est un pays extraordinairement attardé, où le servage s'est alourdi. D'abord, il a commencé plus tard que dans le reste de l'Europe. Et forcément, le moment de le supprimer n'est pas encore venu. L'esclavage existe aux États-Unis et le servage va exister dans une partie de l'Europe jusqu'en 1810.
Oui, mais justement, on dit même qu'elle l'a aggravé, le servage, en quelque sorte. On disait même qu'elle était, au fond, l'impératrice des boyards, l'impératrice des nobles. Elle s'est appuyée sur
eux. Elle s'est appuyée sur la noblesse,
et elle s'est pas beaucoup préoccupée de ses serfs.
Elle a dû d'autant plus s'appuyer sur la noblesse que traditionnellement, dans cette immense Russie qu'il faut tenir, qu'est-ce qui faisait fonctionner? Qu'est-ce que c'était l'administration? Qui constituait les rangs de l'armée? C'était la noblesse, parce qu'elle avait l'obligation de service. Elle ne pouvait pas faire autrement. Et en échange, elle disposait des serfs. Pierre III, feu le mari de Catherine, dans ses 6 mois de règne, a eu une idée un peu saugrenue. Il a supprimé l'obligation de service pour la noblesse. C'est-à-dire que quand Catherine monte sur le trône, les nobles peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller servir une autre cour, ils peuvent rester chez eux, mais ils conservent leurs paysans. Hein? Et il lui a fallu constituer à la fois les rangs de l'armée, une fonction publique, c'est-à-dire que seule la noblesse peut faire cela. Et elle est bien obligée de lui concéder, non pas davantage de serfs, elle a beaucoup distribué de serfs en récompense.
Oh, elle est distribuée un peu comme des cadeaux, comme
oui,
si c'était des animaux, en fait.
Oui, c'était un peu. Bah oui, mais c'était la tradition, vous savez, c'était un empire où ça se passait comme ça. Et elle a été l'héritière de cette tradition. Mais en même temps, alors ça, je crois qu'il faut tout de même en avoir conscience, lectrice des philosophes, attachée aux idées, surtout de Voltaire, qui est pour elle le plus grand de tous ces hommes, elle aurait voulu supprimer le servage. Elle était tout de même allemande, elle n'était pas russe, vous comprenez, cet environnement l'a choquée profondément. Mais elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas. Et elle a cherché, par diverses brèches, à poser le problème du servage. Tout de même, il ne faut pas oublier qu'au début de son règne, elle fait ouvrir un débat public par la société d'économie sur le problème du servage et les moyens d'en sortir. On ne peut jamais impunément faire des choses comme ça. Et elle trouvait des petites solutions pour qu'un certain nombre de gens échappent au servage.
Oui, et pour éviter les révoltes, cela dit, il y en a qui se sont produites, justement, parce que la misère, justement, des serfs, les mécontentements des nationalités font que beaucoup de révoltes se sont produites pendant son règne. Hélène Kardankos, c'est notamment la révolte la plus sanglante du règne de Catherine II, déclenchée en 1775 par un cosaque du Don, Yemelyan Pougatchev.
Fort Malikovsk a été pris en un rien de temps. Ils étaient au moins 3000 à nous cerner. Surtout des Asiatiques. Des Bashkirs, des Kalmouks, des Cosaques et une poignée de serfs. On a reçu des ordres. On doit prévenir tous les forts des alentours.
Pougatchev a menacé de les brûler tous, l'un après l'autre.
Pougatchev, ce charlatan. Pougatchev. Mais sais-tu au juste qui il est? C'est un Cosaque déserteur. Il s'est échappé 3 fois de prison. Un imposteur qui se fait passer pour le tsar de Russie. Le tsar Pierre III qui est mort il y a des années. Et à tous, il promet toutes sortes de richesses qu'il ne pourra jamais donner. Des terres, du bétail, du pain. En fait, sais-tu ce qu'il vous donnera? La corde.
À l'impératrice. Vive Catherine!
Vive Catherine!
Alors, c'était un extrait du film La Tempête, tiré d'une nouvelle de Pushkin, la fille du capitaine, dont l'intrigue se passe et incarne en cause, vous le savez, à l'époque de la révolte de Pougatchev, ou que vous appelez l'empereur des gueux. C'était quoi cette révolte qui a été sanglante, brutale,
qui
a duré deux ans?
Ça a été une révolte extraordinaire, mais qui rappelle d'autres révoltes antérieures, car il y a une tradition russe de cette espèce d'immense jacquerie qui soulève à un moment donné la paysannerie autour d'un personnage mythique qui toujours se prend pour le bon tsar face au mauvais tsar. Et Pougatchev a prétendu qu'il était le tsar Pierre III, qui n'était pas mort. Mais ça, c'est un phénomène de l'histoire russe. Il y a toujours...
Donc le mari de Catherine II.
Oui, celui qui se proclame le tsar qu'on aurait assassiné, qui n'est pas mort et qui revient pour soulever le peuple et rétablir la justice et l'ordre. Alors, et à ce moment-là, il soulève la paysannerie, il soulève les nationalités qui ne sont jamais, je dirais, réconciliées avec leur situation de peuple dominé. Et Pougatchev a émis en péril complètement l'Empire, puisqu'il a, son idée était d'ailleurs de marcher jusqu'à Moscou. Il a eu derrière lui et les paysans et les serfs qui étaient ouvriers d'usine et qui étaient encore plus mécontents de leur sort que les paysans qui travaillaient à la terre, et les nationalités. Il a véritablement été très sanglant aussi. Je veux dire que la révolte de Pougatchev a été un bain de sang des deux côtés. Et Pushkin, que vous évoquiez, n'est pas indulgent avec Pougatchev. Il a écrit l'histoire de Pougatchev et il dit « l'abomination ». Qu'a organisé cet homme était à l'égal de la répression qu'il a subie.
En tout cas, elle est capturée et exécutée en 1775. Elle va vivre encore 20 ans, pendant 20 ans, Catherine II, puisqu'elle va mourir en 1796, maudissant la Révolution française aussi. Hein, c'était quand même pas une progressiste. Hein, elle appelait ça la peste française, je crois. Et en ayant une politique étrangère, parce qu'elle a laissé surtout aussi l'agrandissement de son pays. La politique étrangère a été très active pendant toute la durée de son règne.
Elle a laissé deux choses. Elle a laissé un pays agrandi, puisqu'elle a, c'est sous son règne que la Crimée a été conquise, et qu'enfin, ce que Pierre le Grand avait raté, la Russie est installée sur les bords de la mer Noire, et montre véritablement à la Turquie, à l'empire, au puissant empire ottoman, son autorité. Elle a conquis la Pologne, elle a participé au dépeçage de la Pologne, pas toute seule, je voudrais le dire, ils étaient tout de même trois, hein, le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche. C'était largement une affaire collective. Et puis, elle a réussi encore quelque chose de plus important, c'est-à-dire qu'après elle, à partir de son règne, cette Russie qu'on méprisait, qu'on tenait pour rien du tout, on a cité tout à l'heure Choiseul, Louis XV disait « la Russie n'a aucun droit à jouer aucun rôle », eh bien, à partir du milieu du règne de Catherine II, la Russie est la grande puissance européenne et elle ne sortira plus jamais de ce statut jusqu'à la Révolution russe. Pierre le Grand n'avait pas réussi à faire de la Russie une puissance reconnue par tous. Avec Catherine, elle participe aux Jeux européens et cela, c'est un acquis définitif. Alors, un territoire agrandi, un statut de puissance reconnu unanimement, ce sont les acquis du règne de cette femme.
Elle construit des villes aussi, des palais. Je crois qu'elle a beaucoup embelli Saint-Pétersbourg.
Ah, elle a énormément embelli Saint-Pétersbourg. Mais là, elle se situe dans la ligne de Pierre le Grand. Sa légitimité, c'était aussi d'être la continuatrice de Pierre le Grand. On l'a dit au début, elle n'avait aucun droit à régner. Mais en se posant comme successeur de Pierre le Grand, en allant dans la même ligne, européanisant, agrandissant le territoire, ouvrant sur les mers... embellissant Saint-Pétersbourg, elle est vraiment la fille de Pierre le Grand.
Et pourtant, elle a laissé derrière elle, Lenka Dankos, une réputation absolument détestable. On ne retient de son règne, on n'en a pas parlé, parce que finalement, vous en parlez peu, et ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, dites-vous. Mais on se souvient surtout de son règne à cause de ses amants multiples, le fameux Potemkin qui lui faisait croire que son peuple était finalement beaucoup plus content qu'il ne l'était en réalité. Ses amants, ça, quand même, ça existait.
Alors, je voudrais dire une chose. Bon, en effet, c'est ce qu'on a retenu. Elle a eu, on a décompté, 17 amants. Soyons sérieux, les rois de France en avaient souvent autant de maîtresses et on ne leur a rien reproché. C'était des hommes, Catherine II était une femme. Et c'est surtout la postérité qui a adopté un point de vue très méprisant pour les femmes et a considéré qu'elles n'avaient pas le droit de faire ce que les hommes faisaient. Et Catherine a pensé qu'elle pouvait vivre comme un homme puisqu'elle exerçait une autorité masculine. Mais je dirais que dans cette kyrielle d'hommes, il y en a trois qui ont compté et qui ont joué un rôle. Elle ne leur a jamais laissé jouer un rôle politique. C'est une première chose dont il faut se souvenir. Elle n'a jamais partagé son pouvoir, mais il y en a trois qui ont eu une influence décisive. Le premier qu'elle a aimé alors qu'elle était grand-duchesse, c'est Potemkin. Elle en a fait un roi de Pologne et elle lui doit d'avoir pu mettre la main sur la Pologne. Mm-hmm. Le second, c'est Grégoire Orlov.
Poniatowski, vous voulez dire ?
Pardon ? Poniatowski.
Oui, Poniatowski. Oui.
Stanislas Auguste Poniatowski. Mm. Le second, c'est Grégoire Orlov qui l'a porté, elle lui doit son trône. Mm. Et le troisième, c'est Potemkin, qui a été son amant pendant peu de temps, mais peut-être son mari clandestin. C'est pas exclu, ou son mari secret. Lui, il lui a apporté l'Empire du Sud.
Et c'est lui qui s'est battu contre les Turcs, a conquis la Crimée.
Il a conquis tout le Sud et il lui a offert cet immense empire. Alors, il lui a fait croire, non, on a attribué à Potemkin l'histoire des fameux villages de Potemkin. C'est-à-dire que quand il a offert à Catherine II, suivi d'une immense cour, de beaucoup d'étrangers, de visiter cette Russie qu'il avait conquise, et vous savez, c'était une grande entreprise de propagande. Mmh. Catherine II avait invité les ambassadeurs, le prince de ligne, etc., qui écrivaient à leur gouvernement pour dire « Voyez ce qu'est l'empire de Catherine II », car elle était un chef, un maître à cette propagande. Bon, on a dit que ce qu'il lui avait montré, c'était des villages qui n'existaient pas, des usines qui n'existaient pas.
C'était les villages Potemkin.
Oui, alors, qu'il ait repeint des façades, c'est très probable, ça se fait dans tous les voyages, je dirais, présidentiels ou impériaux. En revanche, ce qu'il lui a montré, elle est allée sur les bords de la mer Noire, elle a regardé l'Empire ottoman, elle a montré sa puissance, et l'Empire ottoman n'en est pas revenu.
La postérité de Catherine II, qui est morte en 1796, en cause, en quelques mots, il nous reste quelques secondes.
Eh bien, cette postérité, elle a été, je dirais que dans son propre pays, elle a été oubliée pendant toutes les années soviétiques, comme tous les souverains d'ailleurs. Seul Pierre le Grand avait eu, à partir de la Seconde Guerre mondiale, le droit de citer. Aujourd'hui, la Russie est fascinée par le personnage, elle s'intéresse, des historiens travaillent, et on est en train d'admettre qu'il y a eu deux très grands souverains dans l'histoire russe, dans le même siècle, Pierre le Grand et elle, tous les deux, je dirais, accomplissant la même œuvre, et puis des souverains qui ont poursuivi ce qu'avait été leur œuvre.
Merci Hélène Carrère-Dancos. Pour en savoir plus, je recommande donc la lecture de votre livre, Catherine II, un âge d'or pour la Russie, une biographie très complète, publiée chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits de deux films inspirés l'un et l'autre de deux nouvelles de Pouchkine, La fille du capitaine d'Alexandre Prochkine et La tempête d'Alberto Latuada. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute, ou en consultant notre site sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation, Virginie Bloch-Lienné et Claire Tesser. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet. Cette émission fut diffusée le 25 novembre 2002. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale.